Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, ce soir, lundi 13 janvier, va se dérouler à Paris une conférence très intéressante sur le complotisme et le conflit israélo-palestinien. Le complotisme, pensez-vous, c'est un vieux truc, aussi vieux que le protocole des sages de Sion, cet infâme pamphlet de propagande antisémite qui date du temps des derniers tsars de Russie. Et puis, quel rapport avec le conflit israélo-palestinien qui, lui, est bien actuel? Alors, détrompez-vous. Le complotisme a acquis une nouvelle dimension à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Ses retombées idéologiques, culturelles et politiques sont importantes. Pour nous expliquer tout cela, nous avons la chance de recevoir sur notre antenne Rudi Rechtstadt. Rudi Rechtstadt est politologue, mais surtout créateur et animateur du site Conspiracy Watch. Son dernier livre, L'opium des imbéciles, est édité aux éditions Grasset. C'est aussi Rudi Rechtstadt qui prendra la parole ce soir au cours de la conférence que j'ai évoquée. Elle aura lieu au Cercle Bernard Lazare, 10 rue Saint-Claude, à Paris 3e, à 20h30. Rudi Rechtstadt, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour, Rudi Rechtstadt. Alors, tout de suite, une première question. Expliquez-nous, qu'est-ce que le complotisme aujourd'hui ? Est-ce que c'est une idée nouvelle ? Qu'est-ce que c'est le complotisme en ce début du 21e siècle ?
C'est une vaste question. C'est pas une idée.
Mais vous avez pas beaucoup de temps.
Et j'ai pas beaucoup de temps en plus. Alors, écoutez, des théories du complot, il y en a depuis très longtemps. On peut dire qu'il y a des théories du complot depuis qu'il y a des complots, donc depuis qu'il y a des sociétés humaines, parce que des complots, des conspirations dans l'histoire, tout ce qui peut s'y apparenter, ça a fait aussi l'histoire des hommes. Les complots échoués aussi, hein, on sont beaucoup plus nombreux en général, ils ont fait aussi l'histoire. Nous, ce qu'on dit, c'est que à côté de ces vrais complots, il y a aussi des croyances conspirationnistes, des mythes complètement infondés, extravagants, qui ont aussi agi les hommes et avec des conséquences funestes. Vous avez évoqué les protocoles des sages de Sion. Bah, les protocoles des sages de Sion, ils ont
justifié
idéologiquement, intellectuellement, le passage à l'acte génocidaire. Je veux dire, c'est comme vous disiez, c'est quelque chose qui est central dans l'idéologie nazie, l'idée d'un grand complot juif mondial pour la domination universelle. Bon. Donc ces choses-là ont des effets, il s'agit de dire simplement d'être vigilant sur ces choses-là, et puis de se demander à qui profitent aussi ces théories du complot, parce que ce sont des armes rhétoriques mises au service aussi bien de démagogues populistes que de régimes autoritaires pour stigmatiser ceux qui leur résistent, leurs opposants notamment, et puis tout ça a des conséquences souvent inquiétantes et à partie liée aussi avec l'extrémisme politique. C'est quelque chose qu'on voit bien aujourd'hui. Les théories du complot, elles ont pris des formes très diverses à travers l'histoire. Elles sont sécularisées au cours des 2-3 derniers siècles. Et aujourd'hui, avec Internet, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, elles ont eu une chance historique de se développer et d'influencer notre imaginaire politique, sans doute de manière inédite, en tout cas à l'époque contemporaine. Et c'est sur ce point-là qu'on essaie de mettre le doigt et qu'on essaie d'alerter l'opinion publique.
Voilà. D'accord. Alors dites-nous, Rudi Rechtstadt, est-ce que le complotisme a une couleur politique particulière ? Est-ce qu'elle est plus d'extrême droite ou est-ce qu'elle est plus d'extrême gauche ou est-ce qu'elle est ailleurs ?
On sait qu'il y a une corrélation entre l'extrémisme politique, la radicalité politique au sens large, c'est-à-dire le consentement à la violence notamment, et le complotisme, les idées complotistes. Nous avons fait Conspiracy Watch et la Fondation Jean Jaurès avec l'IFOP, 2 années de suite, une grande enquête d'opinion sur le complotisme qui met très bien en évidence le fait qu'il y a une corrélation entre les sympathies politiques à l'extrême droite et ensuite à l'extrême gauche du spectre politique et une surreprésentation en termes d'adhésion statistique aux différentes théories du complot en circulation. C'est très très net. On a les sympathisants du Rassemblement National, parfois également de Nicolas Dupont-Aignan, et ceux de la France Insoumise, qui sont à peu près, presque sur tous les items conspirationnistes qu'on leur propose, qui sont surreprésentés, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont plus complotistes statistiquement que la moyenne. Et c'est pas le cas des sympathisants des partis, si vous voulez, de gouvernement, qui eux sont plutôt sous-représentés. Donc il y a un effet, évidemment. C'est au cœur, j'avais fait une note sur le sujet il y a quelques années, c'est au cœur de l'idéologie islamiste radicale, au cœur de l'idéologie djihadiste, il y a l'idée que il faut réagir contre un grand complot des juifs et des croisés, les chrétiens, contre l'islam, et un complot quasiment cosmique. C'est-à-dire qui prend qui a des résonances théologiques d'une part, et ensuite qui existe et qui perdure depuis la naissance même de l'islam, de la révélation islamique. Et donc c'est au nom du combat contre ce complot des juifs et des croisés que on en vient à justifier le passage à l'acte, qui est vécu comme une forme de légitime défense. C'est ce que disent les frères Kouachi, par exemple, c'est ce que disent beaucoup de terroristes djihadistes.
D'accord. Alors, ce soir, vous allez traiter du complotisme et du conflit israélo-palestinien. Quel est le rapport entre complotisme et conflit israélo-palestinien ? Est-ce qu'il y a des fausses rumeurs autour de ce conflit ? Quelle forme cela prend ? Est-ce que c'est une question centrale en termes de complotisme, l'affaire israélo-palestinienne ?
Écoutez, en tout cas, évidemment, c'est un conflit donc qui forcément déchaîne les passions, qui a ses extrémistes et qui évidemment relaye des théories du complot pour stigmatiser le camp adverse. Le complotisme, si vous voulez, l'antisémitisme est un complotisme essentiellement. L'antisémitisme moderne, il dénonce un complot juif. Bon. Est-ce que tous les complotismes sont antisémites ? Non, c'est pas le cas. C'est une structure de discours, le complotisme, et qui peut être mis au service de camps tout à fait rivaux, tout à fait opposés. Et donc, on trouve du complotisme et du complotisme antisioniste et antisémite chez les Palestiniens, en tout cas les plus radicaux, et les groupes palestiniens les plus radicaux. C'est très clair dans la charte du Hamas, par exemple, qui reprend in extenso hein, des pans entiers des protocoles des sages de Sion dont on vient de parler. Puis, on trouve à l'extrême droite israélienne des théories du complot qui circulent, alors aussi bien sur la mort du petit palestinien Mohamed Al-Doura en 2000, que sur l'assassinat de Yitzhak Rabin, qui est attribué à la gauche israélienne, etc. On trouve des théories du complot visant, par exemple, George Soros, qui circulent également dans la droite nationaliste israélienne, jusqu'au fils de Benjamin Netanyahu, qui avait relayé un montage qui est à la fois complotiste, anti-Soros, et qui a même, d'une certaine manière, des résonances antisémites et anti-maçonniques. Donc, tout ça est inquiétant, c'est le reflet en général d'une démocratie qui va mal. C'est moins une pathologie individuelle, le complotisme, qu'une pathologie collective et une pathologie de la démocratie. Donc c'est comme ça, à mon avis, qui doit être envisagé, c'est ce qu'on va essayer de traiter ce soir. Voilà.
Alors, d'après vous, il y a autant de complotistes, il y a autant de théories de complot du côté des pro-palestiniens que du côté des pro-israéliens. Mais est-ce que ce sont des Palestiniens de Palestine, des Israéliens d'Israël ou des gens qui se lancent qui sont éloignés géographiquement de ce conflit et qui sont des partisans et qui ont besoin, qui sont d'autant plus...
Mais vous avez tous les cas de figure.
Ouais.
Oui, vous avez tous les cas de figure, ceux qui sont plus royalistes que le roi, qui sont à l'étranger, qui regardent ça de très loin, qui sont très souvent assez sous-informés sur les tenants et aboutissants d'un conflit quand même d'une extraordinaire complexité, qui est ancien maintenant, qui a plus de 70 ans. Bon, donc vous avez tous les cas de figure. C'est très compliqué de vous dire il y a plus d'un côté ou de l'autre parce que tout ça n'a pas été mesuré. Je serais incapable de vous le dire. Mais ce qui est certain, c'est que le complotisme de part et d'autres, est un frein à la paix. Quand on s'intéresse à la paix au Proche-Orient,
c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un frein à la paix ?
Bah évidemment, puisque on accuse l'adversaire, ou le rival, l'ennemi, de se livrer à des comment dire, à des crimes incommensurables et littéralement de diviser et d'être le diviseur. Le diviseur en grec, c'est le diable, hein, c'est la racine étymologique du diable. Donc ces discours conspirationnistes, ils s'intègrent dans des schémas discursifs qui sont démonologiques. Et or, vous ne discutez pas avec le diable, vous le combattez, vous le tuez. Voyez, on ne peut pas discuter du bien commun, de l'avenir avec le mal. C'est essentiel, vous voyez. Non, le mal, on l'évacue, on le tue, on l'élimine. Donc voilà, donc c'est évidemment, ces représentations-là sont des freins à la paix et à la discussion.
Mais est-ce qu'on diabolise pour continuer le conflit? Est-ce qu'on lance des rumeurs terribles sur son adversaire, sur son ennemi, pour continuer à le combattre? Ou est-ce que c'est plus culturel, psychologique? Est-ce qu'il n'y a pas forcément, est-ce qu'il y a forcément une intention de poursuivre le combat jusqu'à la fin?
Écoutez, en tout cas, c'est instrumentalisé dans ce sens-là. Par des entrepreneurs de politisation qui sont pas nés de la dernière pluie, qui savent ce qu'ils font, dont les doutes sont stratégiques, vous voyez, qui relèvent plus de la posture que d'un réel questionnement intérieur sur tel ou tel sujet. Donc il faut pas être dupe de ça. Ce sont des discours politiques, les théories du complot et les rumeurs complotistes au sens large. Et donc elles sont instrumentalisées dans un but politique et idéologique. Donc il faut évidemment y résister. Que des gens y croient sincèrement, de bonne foi, parce que ils sont même pas forcément toujours conscients qu'ils sont face à des théories du complot, parce qu'ils sont pas forcément conscients qu'il puisse y avoir une autre manière d'envisager tel ou tel événement, c'est certain. On peut être intoxiqué par des théories du complot, et à ce moment-là, on porte une responsabilité intellectuelle et morale beaucoup moins importante que lorsqu'on est fabricant, vous voyez, un ingénieur de ces théories du complot, un théoricien du complot au sens fort du terme, ou un politique qui utilise ces choses-là de manière cynique, comme on le voit aujourd'hui à travers le monde, y compris dans des démocraties libérales atteintes du syndrome du populisme. Mais voilà, donc évidemment, ce mot de complotiste pour désigner une personne ne rend pas justice à l'éventail de situations qui peut recouvrir entre la personne cynique qui instrumentalise cela et celle qui est intoxiquée par tout cela.
Eh bien, écoutez, une dernière question, très très rapide. Vous dites « la falsification de l'histoire prépare le génocide ». C'est un jugement très très lourd. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se battre contre le complotisme, le fantasme et la haine?
En deux mots. C'est une très très vaste question. En deux mots, d'abord, comprendre que ça existe, savoir le reconnaître, l'identifier, parce que ce sont des discours qui ont une structure relativement stable au final, et puis apprendre à penser et à raisonner, et en se méfiant de ces chausse-trappes que constitue le monocausalisme, vous voyez, le fait d'attribuer toujours à une seule cause l'origine d'un événement, le fait également de considérer que les acteurs du champ politique et social sont monolithiques et ne bougent pas. Il y aurait une essence comme ça, stable, à travers l'histoire.
Voilà, écoutez, vous voyez, on entend le générique, on a terminé.
On a plus le temps, c'est un complot contre nous.
Alors, je vous dis, de toute façon, je vous dis à ce soir, chers auditeurs, venez très écouter bien. Rudi Rittstedt ce soir au Cercle Bernard Lézard. Alors, bonne merci. Semaine à tous. On se retrouve pour une autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzi, Meyerson à l'antenne, avec Chronique pour la paix. À bientôt.